C'est sans doute pourquoi la jeune femme prit l'initiative de prévenir l'hôtesse que le monsieur s'était endormi dès le décollage, malgré les jacasseries ambiantes. Il s'est écroulé de fatigue, confia-t-elle à l'hôtesse. Mais peu après s'être assoupi, Juan Diego s'était mis à parler. Au début, j'ai cru que c'était à moi qu'il s'adressait, ajouta la jeune passagère. À l'entendre, on n'aurait pas cru qu'il dormait. Son élocution était parfaite, sa pensée incisive, quoique professorale. Au XVIe siècle, quand l'ordre des Jésuites a été fondé, rares étaient les gens qui savaient lire, et plus rares encore ceux qui savaient le latin, indispensable pour dire la messe. Je vous demande pardon, mais il y avait quelques esprits dévoués, des âmes qui ne pensaient qu'à faire le bien et désiraient ardemment entrer dans les ordres. Mais pourquoi ? Demanda la jeune femme, avant de se rendre compte que Juan Diego avait les yeux fermés. Elle avait l'impression que l'ancien professeur d'université lui faisait un cours dans son sommeil. Ces hommes de devoir étaient appelés frères laids, parce qu'ils n'avaient pas été ordonnés. Aujourd'hui, ils exercent des métiers de caissier ou de cuisinier, ou encore d'écrivain, continua Juan Diego en riant sous cap. Puis, toujours profondément endormi, il se mit à pleurer. Mais frère Pépé avait consacré sa vie aux enfants, il était éducateur dans l'âme, continua-t-il, la voix brisée. Il ouvrit les yeux, fixant sans la voir la jeune femme assise à côté de lui. Aucun doute, il était cané, comme elle aurait dit. Pépé ne pensait pas avoir la vocation, il ne se sentait pas appelé, même s'il avait prononcé ses vœux et ne pouvait donc se marier. Juan Diego avait refermé les yeux et des larmes ruisselaient sur son visage. « Je comprends, » lui dit la jeune femme à voix basse, en se glissant hors de son siège pour aller voir l'hôtesse. Elle tenta de lui expliquer que l'homme ne l'importunait pas. Il avait l'air gentil, inoffensif, seulement il était triste. « Triste ?» s'étonna l'hôtesse. Celle-ci ne savait plus où donner de la tête. Une bande de soifards avait pris ce vol matinal, des jeunes qui avaient fait la nouba toute la nuit. Il y avait aussi une femme enceinte, dont la grossesse était peut-être trop avancée selon les normes de sécurité aérienne. Elle ressentait des contractions, ou alors son petit déjeuner ne passait pas, lui avait-elle confié. « il pleure à chaudes larmes dans son sommeil », expliqua la voisine de siège de Juan Diego. « Mais sa conversation est d'un très haut niveau, comme s'il dispensait un cours à des étudiants, vous voyez ?»« Ça ne me paraît pas dangereux », fit remarquer l'hôtesse. De toute évidence, elle s'était engagée dans un dialogue de sourde. « Je vous dis qu'il a l'air gentil, il n'est pas dangereux. Le pauvre homme a des problèmes, il est très malheureux. Malheureux ?» L'hôtesse avait autre chose à faire que gérer les états d'âme. Malgré tout, ne serait-ce que pour fausser compagnie aux ivrognes et à la femme enceinte, elle accompagna la passagère. Juan Diego semblait cette fois dormir paisiblement dans son siège côté hublot. Le sommeil le faisait paraître plus jeune que son âge, avec sa peau sombre, ses cheveux à peine grisonnants. « Ce type n'a pas de problème. Il ne pleure pas, voyons, il dort !» certifia l'hôtesse à la jeune femme. « Regardez ses mains. On dirait qu'il tient quelque chose. » En effet, les avant-bras de Juan Diego étaient tendus, rigides, à angle droit de son corps. Les doigts écartés, comme s'il cramponnait un objet cylindrique. Une boîte à café ? L'hôtesse se pencha vers lui. « Monsieur ?» Elle lui effleura le poignet et perçut la tension des muscles de ses avant-bras. « Monsieur, ça va ?» lui demanda-t-elle d'une voix plus ferme. « Calzada de los misterios !» clama Juan Diego, comme s'il essayait de se faire entendre dans le tumulte d'une foule. Dans son esprit, ses souvenirs ou son rêve, il se trouvait en effet au milieu d'une foule, assis sur le siège arrière d'un taxi qui se frayait un passage dans les encombrements matinaux de l'avenue des Mystères. « Excusez-moi, » dit l'hôtel. « Vous voyez, c'est comme ça depuis tout à l'heure, il ne s'adresse pas vraiment à nous, » insista la jeune femme. « Une calzada, c'est une rue assez large, généralement pavée, très mexicaine, grandiose, datant des temps impériaux, » expliqua Juan Diego. « Une avenida est moins impressionnante. » Calzada de los Misterios, Avenida de los Misterios, c'est la même chose. Demandez-lui ce qu'il tient dans les mains, dit la jeune femme. Monsieur, reprit l'hôtesse d'une voix douce, qu'est-ce que vous tenez dans les mains? Mais quand elle effleura de nouveau son avant-bras, Juan Diego étreignit la boîte à café imaginaire contre sa poitrine. « Descendre, » murmura-t-il. « Descendre ? Tu es poussière et à la poussière tu retourneras, c'est de cet ordre-là, » devina la jeune passagère. « Il s'agit de quelle cendre ?» souffla l'hôtesse à l'oreille de Juan Diego. « De celle de ma mère, et puis de celle d'un hippie, et d'un chien, enfin, d'un chiot. » Les deux femmes restèrent bouche bée. Juan Diego se mit à pleurer. Avec le nez de la Vierge, cendre que tout ça, murmura-t-il dans un sanglot. Les jeunes poivrots entonnaient une chanson paillarde à tue-tête. Il y avait des enfants à bord du vol Philippine Airlines 174, et une dame âgée s'approcha de l'hôtesse. Je pense que la femme enceinte est en travail, dit-elle. Du moins, elle en est persuadée. C'est son premier enfant, notez bien. Alors, qu'est-ce qu'elle en sait? Je suis désolé, mais il faut vous asseoir, dit l'hôtesse à la voisine de siège de Juan Diego. Le dormeur a l'air tout à fait inoffensif avec ses cendres, et nous atterrissons dans 30 ou 40 minutes. Jésus-Marie-Joseph, fit la jeune femme. Juan Diego s'était remis à pleurer. Pleurait-il sa mère, le hippie ou le chien? Pleurait-il le nez de la Vierge Marie? Allez savoir. Le vol de Tagbilaran à Manille était bref, mais 30 à 40 minutes à rêver de cendres, ça peut paraître long. Les hordes de pèlerins marchaient au milieu de la vaste chaussée. Beaucoup d'entre eux avaient débarqué sur l'avenue des Mystères par car entier et s'étaient ensuite rassemblés pour poursuivre à pied leur chemin vers le sanctuaire. Le taxi avançait lentement, s'arrêtait, puis reprenait sa route à la vitesse de l'escargot. La foule des piétons bloquait complètement la circulation. Les pèlerins s'étaient regroupés par collectifs autonomes, homogènes et déterminés, qui avançaient sans se soucier des véhicules surchargés qu'ils immobilisaient et dépassaient. Ils progressaient bien plus sûrement que le taxi, où l'on étouffait. Certes, les deux enfants n'étaient pas les seuls à faire leur pèlerinage sur le lieu saint de Guadalupe, ce samedi matin à Mexico. Les week-ends, la Virgen Morena attirait les foules. Assis à l'arrière du taxi étuve, Juan Diego tenait la précieuse boîte à café contre sa poitrine. Lupe avait voulu la lui prendre, mais ses mains étaient trop petites. Elle risquait de laisser échapper les cendres si un pèlerin la bousculait. Le taxi freina une fois de plus. Ils étaient encalminés dans une mer de marcheurs. La vaste avenue menant à la basilique de Nuestra Señora de Guadalupe était noire de monde. « Tout ça pour une salope d'indienne, l'éleveuse de coyotes. C'est ça que son nom veut dire en nahuatl. Ou je ne sais quelle autre langue indienne, » commenta le chauffeur de taxi, plein de vindicte. « Tu sais pas de quoi tu parles, face de rat, haleine puante !» lui lança Lupe. « Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Elle parle nahuatl ou quoi ?» demanda le chauffeur à qui il manquait, entre autres, les deux dents de devant. « Pas la peine de faire le guide, on n'est pas des touristes. Roulez, c'est tout ce qu'on vous demande, » répondit Juan Diego. Un groupe de nonnes contourna le taxi immobilisé. La cordelette d'un chapelet se rompit, et les perles roulèrent et rebondirent sur le capot de la voiture. « Allez voir le tableau du baptême des Indiens, c'est à ne pas rater, » insista le chauffeur. « Les Indiens ont dû renoncer à leur nom d'origine, » s'écria Lupe. « On leur a imposé des noms espagnols, c'est ça la fameuse conversion de los indios, espèce de bite de souris vendue en couleur de poule. »« C'est pas d'une nahuatl ? On dirait vraiment un dialecte indien, » était en train de dire le chauffeur quand un visage masqué vint se plaquer devant lui sur le pare-brise. Il klaxonna, mais les marcheurs masqués se contentèrent de regarder dans le taxi. Ils portaient des masques d'animaux de la ferme, vaches, chevaux, ânes, chèvres et poulets. Les pèlerins de la nativité, connards de malades de la crèche, marmonna le chauffeur dans sa barbe. Ses canines du haut et du bas étaient elles aussi démanchées, ce qui ne l'empêchait pas d'afficher une imperturbable assurance. Des cantiques à la Virgen Morena jaillissaient des haut-parleurs. Des écoliers en uniforme tapaient sur des tambours. Le taxi avança de quelques mètres, puis s'arrêta de nouveau. Des hommes aux yeux bandés, en costume cravate, liés les uns aux autres par une corde, étaient menés par un prêtre qui débitait des incantations, largement couvertes par la musique ambiante. La mine renfrognée, Lupe était assise sur la banquette arrière,